BFM, la radio libre.
Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de la classe des 2GA1 qui se sont répartis en plusieurs groupes et chacun d'entre eux nous parlera d'un sujet bien précis. Nous aurons aussi le plaisir d'accueillir Nicolas Fay, administrateur de l'Opéra de Limoges, qui répondra tout au cours de l'émission aux questions de Brian. Je vous demande maintenant d'accueillir le premier groupe qui nous parlera de télé-réalité en compagnie de Victoria Fatou, Jalamba et Alésia.
La télé-réalité consiste à filmer la vie quotidienne de personnes sélectionnées pour y participer. Dans chaque émission, il y a des candidats sélectionnés pour participer à des saisons télévisées et chacun d'entre eux est lié à des contrats de travail spécifiques. En effet, chacun a des rôles à jouer, parfois rattachés à des exclusivités que les producteurs cherchent à multiplier afin de finaliser leur vedette. Les candidats doivent se retrouver en même temps dans leur programme et celui de notre chaîne. Ensuite, à la télé désormais, on a aussi des émissions de télé-réalité comme Koh-Lanta.
Regardes-tu la télé-réalité et si oui, combien de temps par jour ?
Oui, je la regarde environ 3 heures par jour.
Qu'en penses-tu ?
Personnellement, j'aime beaucoup les histoires de couple, les clashs. Je trouve ça très amusant et divertissant.
Est-ce que ça te plairait de participer à une émission de télé-réalité ?
Oui, pourquoi pas, ça a l'air bien. On passe notre temps à s'amuser dans des villas magnifiques. Ça permet de devenir connu et d'avoir plus de followers sur Insta. Et cela permet de faire plus d'argent. En revanche, je sais que les chaînes choisissent les passages qu'ils veulent bien nous montrer pour faire de l'audimat et montrant des scandales, des disputes, bref, tout ce qui peut intéresser le public. Ces émissions sont même truquées, des passages sont cachés, les candidats sont payés selon ce qu'ils font.
J'aurais une question. Pourquoi l'Opéra utilise-t-il des réseaux sociaux ?
C'est une bonne question. Eh bien, on utilise des réseaux sociaux pour pouvoir communiquer avec notre public, en fait, tout simplement, pour faire la communication des spectacles qu'on présente à l'Opéra, et puis aussi pour faire découvrir au public plein de choses qu'ils ne peuvent pas voir quand ils viennent pendant les représentations, les montages des décors, les répétitions, etc. Donc c'est un bon moyen de faire découvrir l'Opéra et d'interagir avec le public de manière un peu différente de la communication traditionnelle. Et c'est aussi une manière de toucher un public sans doute peut-être un peu plus jeune, qui n'a pas forcément l'habitude de venir à l'Opéra et du coup de lui faire découvrir ce monde-là.
Je vous demande d'accueillir Lina, Jérémy et Sabrina qui parlera de Snapchat.
Donc bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet dont tout le monde parle en ce moment, le téléphone portable et les réseaux sociaux. Nous allons prendre exemple sur Snapchat qui compte 173 millions d'utilisateurs en 2017. C'est un phénomène dont les jeunes raffolent. En moyenne, 9 adolescents sur 10 utilisent Snapchat. Ils l'utilisent en moyenne 4 heures par jour.
Le créateur de Snapchat est Evan Thomas Spiegel, américain, informaticien, entrepreneur et milliardaire à 24 ans. Le système est très simple à comprendre. Vous discutez avec un ami à vous, vous lui envoyez une photo ou une vidéo. En échange, vous pouvez recevoir des flammes. Environ un snap est égal à une flamme. Si vous décidez d'arrêter les flammes, ben cela repart à zéro. Nous avons à notre disposition des stories personnalisées qui permettent de sélectionner les personnes dont on ne veut pas qu'elles voient les stories. On peut aussi faire des groupes avec nos amis et nous avons aussi à notre disposition des filtres. Snapchat permet de partager nos moments présents. Les gens ont fait de cette application une addiction. Elle stimule notre dopamine. C'est une molécule dans notre cerveau qui va nous permettre plus ou moins de devenir accro à quelque chose. Les réseaux sociaux ont pour but d'occuper tout notre temps jusqu'à en oublier le sens de notre vie. Snapchat est rentré sur le marché boursier comme Facebook. Une chose est sûre, les prochains résultats trimestriels de l'application aux messages et photos éphémères vont être scrutés avec une grande attention par Wall Street. Maintenant, je passe la parole au groupe Évolution de la Musique 1.
Bonjour, je m'appelle Nadeline. Je vais vous présenter l'évolution de la musique. Vous écoutez du rap ?
Oui.
Mais est-ce que vous connaissez le groupe de rap des années 90 qui sont à l'origine des rappeurs d'aujourd'hui ?
Oui, je connais.
Je vais vous présenter un groupe de rap des années 90, Supreme, NTM, et un groupe phare de cette génération, c'est un groupe de hip-hop français, origine du NAF 3, composé de deux rappeurs, Joey Star et Cold Chain, connus pour leurs paroles ouvertement critiques sur le racisme et les inégalités de la classe dans la société française. En 1988, le groupe sort son dernier album dont le titre est « Ne laisse pas traîner ton fils », qui a connu un grand succès commercial avec plus d'un million de disques vendus. Je vais vous présenter une musique de leur rap qu'ils ont fait.
J'ai jamais demandé à t'avoir. C'est avec ces formules trop saoulées. Enfin faut croire que mon père a contribué à me lier avec la rue. J'ai eu l'illusion de trouver mieux, j'ai vu. C'est un gamin de 14 ans avec le décalage de l'âge. Pour entrevoir, c'était comme un mirage. Plus d'interdits, juste avoir les dents assez longues pour croire que la vie profitait de tout ce qui tombe. La rue a su me prendre car elle me faisait confiance.
30 ans après NTM, le rap a évolué. Un exemple, 4 Cuz qui s'est créé en 2017. 4 Cuz est composé de 7 membres du 9-3, HK, Tiakola, Bene, Pequeño, Le Black, Jeffy et Bouska. C'est grâce à leur single Au quartier, c'est la Hesse que ce groupe a été révélé. Je veux aussi vous présenter une musique qu'ils ont créée.
Lunettes teintées car j'ai les yeux rouges. Lunettes teintées car j'ai les yeux rouges. J'pavane seul tout long et la route. Au pénave sans bam, dis lâche qu'un bestou. J'prends sur moi si rien mais je sais tout. Juste j'attends le bon moment pour en découdre. T'étais le sang maintenant j'te vois en chelou. Fais pas le fou on sait qu'au fond toi t'es cool. J'ai la touffe papa avec que j'fais la boule. J'appelle Terra Clique pour faire la bouffe. Elle est là pour le rap mais j'm'en bats les couilles. C'est Nat se démêle quand j'lui mets des coups. Quoi qu'il arrive j'me battrai toujours.
Je vais poser quelques questions à ma collègue qu'on a fait le travail. Émilie, pourrais-tu me dire ce que tu penses du rap des années 80 et celui de notre génération 2018 ?
Je pense que ce ne sont pas tous à fait les mêmes styles. Dans les années 80, les paroles des chansons sont plus cherchées. Les artistes veulent faire passer un message d'une meilleure justice sociale. Aujourd'hui, les rappeurs parlent plus de leur vie quotidienne et de leurs textes peuvent être plus vulgaires.
D'accord, merci. Aimes-tu plus le rap des années 80 ou celui de notre génération 2018 et pourquoi ?
Je préfère celle de notre génération car les groupes de rap d'aujourd'hui sont plus connus. Leur musique et le tempo de leurs chansons mettent plus d'ambiance.
D'accord, merci beaucoup. On va...
J'aurais une question. Quelle est la place des femmes cadres dans l'opéra ?
Ah, c'est une bonne question. Alors, on va essayer d'être précis et à la fois d'ouvrir un petit peu la réflexion. Si je regarde un peu dans les cadres qui composent l'équipe de l'opéra, on est à peu près moitié-moitié. Il y a à peu près la moitié de femmes et la moitié d'hommes. Quand on a dit ça, on peut remarquer aussi que le directeur général et l'administrateur général, donc moi-même, on est deux hommes. Le directeur technique, c'est un homme aussi. Donc voilà, il y a autant de femmes que d'hommes, mais on va dire que y a quand même les hommes sont plus représentés. Si on regarde plus généralement dans les opéras en France, c'est vrai que les hommes, notamment les directeurs, sont évidemment beaucoup plus représentés. Il y a très peu de femmes qui sont dirigées par... très peu d'opéras, pardon, qui sont dirigés par des femmes. Donc, il y a encore une certaine inégalité de ce point de vue-là. Après, si on prend le terme de cadre au sens strict, on peut considérer aussi qu'il y a toute une partie des équipes qui travaillent à l'opéra qui sont des cadres. C'est les artistes, les musiciens, les chanteurs, les chœurs, etc. Et là, les choses se rééquilibrent un petit peu plus. Donc, dans les métiers artistiques, où on a souvent beaucoup de femmes, dans les orchestres ou dans les chœurs. La femme est quand même assez bien représentée à l'opéra. Il y a aussi beaucoup de metteurs en scène qui sont des femmes aujourd'hui. Et dans d'autres types de métiers, comme le chef d'orchestre, par exemple, les chefs d'orchestre sont là, par contre, vraiment majoritairement des hommes. Donc, on va dire que ça dépend un petit peu des métiers dans l'opéra, mais qu'effectivement, il y a quand même une petite représentation, une surreprésentation des hommes. Mais évidemment, ça a tendance à changer, et c'est une problématique qui est très importante pour nous, et sur laquelle on travaille, évidemment, auquel on est très attentif. Donc à ce rééquilibrage. Je rajouterais aussi que, évidemment, à l'opéra, il n'y a pas de différence salariale entre les hommes et les femmes, comme on peut malheureusement le rencontrer encore dans certaines entreprises. Évidemment, il y a le traitement est évidemment bien égal entre les hommes et les femmes. Voilà. C'est un sujet assez compliqué aussi, hein, voilà. Et on peut dire aussi que, à travers les œuvres qu'on propose au public, souvent il y a une représentation des femmes à l'opéra qui est toujours peut-être un peu négative. Vous savez que la soprane, elle meurt tout le temps à la fin à l'opéra. Donc voilà. Donc on a vu récemment, il y a eu des exemples de. Je suis bavard, je suis désolé. Il y a eu des exemples de retournement de fin d'opéra. On n'a pas fait mourir Carmen à la fin, mais Don José. Et donc, du coup, voilà, c'est aussi des manières de remettre la femme un petit peu en avant et reprendre la place qu'elle aurait toujours dû avoir. Voilà.
Je vais vous présenter le groupe suivant, l'évolution de la musique numéro 2, avec la chica Nasira Elidja.
Bonjour à tous. Je vais vous parler sur l'évolution de la musique en Inde. Bollywood est un style de musique indienne qui prend le beat de Bombay, la capitale de l'Inde, qu'on appelle maintenant Mumbai, et Hollywood de Hollywood. Auparavant, les chansons Bollywood étaient plus centrées sur la culture indienne, comme Ramayana et Mahabharata, et elles avaient moins de paroles mais beaucoup de chants. Actuellement, il y a plusieurs sortes de musique, des musiques romantiques, des musiques militantes, qui proposent des messages de courage et de sport. La nouveauté, c'est que la musique Bollywood s'empare des problèmes importants en Inde, comme le droit des femmes, la lutte contre les inégalités.
Merci Nasira pour ta prise de parole. Tu viens de parler de la place des femmes en Inde et de la lutte contre les inégalités. Nous allons te présenter la chanteuse colombienne Shakira, qui a mis au service sa célébrité pour créer une fondation qui vient en aide aux enfants défavorisés. Elle est ambassadrice de l'UNICEF. Sa chanson Waka Waka est d'ailleurs un hymne à la justice sociale dans le monde. Elle est inspirée du tube Zongalewa sorti en 1986. Elle a été popularisée par le groupe de gendarmes de la garde présidentielle camerounaise Golden Sound, aussi appelé Zongalewa. Cette chanson est faite pour motiver les soldats africains. Les artistes y défilent en tenue militaire, grimés, avec les ventres ballonnés et des casques coloniaux sur la tête. Nous chantons ainsi pour la liberté en Afrique, explique Jean-Paul Zebela, le leader du groupe. Je passe à ma collègue Latika qui va finaliser la chronique.
C'est ce dernier installé aux États-Unis depuis 15 ans qui a signé à ses amis l'adaptation de leur chanson. Shakira a adapté leur succès sans demander leur permission. Mais finalement, après avoir passé un accord avec la chanteuse, le groupe Zongalewa a fait une conférence de presse pour calmer les esprits. Shakira et le groupe Fresley Group ont pu interpréter ce titre le 10 juin 2010 lors du concert d'ouverture et la cérémonie de clôture du mondial de football. Ce titre a été le plus commercialisé dans l'histoire de la Coupe du Monde, interprété par une femme.
Merci Lydia et Lactica pour vos informations.
Changeront en fonction de mes représentations. Car parier. Qui est-ce qu'en 6 mois s'est fait valider? Bah ouais, c'est moi. Et bah ouais, c'est moi. Hey. Venez, venez, on va parier. Qui est-ce qu'en 6 mois s'est fait valider? Bah ouais, c'est moi.
Calm, don't start no trouble with me. Tryna keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m.
Anything you guys want in the store is free, so grab whatever you guys want.
I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story, shit was different with me. God's plan, God's plan. I hold back, sometimes I won't, yeah. I feel good, sometimes I don't, hey, I finesse down Western Road, hey, next. Might go down to G-O-D, yeah, wait, yeah. I go hard on Southside G, yeah, wait, yeah. I make sure that Northside E. And still
you need to say what you say.
Thank God for what's happening right now. It might not be good, but thank God.
I do.
They wish and I wish and I wish and I wish and they wish on me. Yeah. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. Don't tell the story, shit was different with me. God's plan, God's plan. I hold back, sometimes I won't, yeah. I feel good, sometimes I don't, hey, no. I finesse down Western Road, hey, next. Might go down to G-O-D, yeah, wait, yeah. I go hard on Southside G, yeah, wait, yeah. I make sure that Northside E. And still bad things, it's a lot of bad things that they wish and 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 on me.
Yeah, that's right. Look, yeah, you got the right idea.
Bad things, it's a lot of bad things that they wish and 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 on me. Yeah. Hey, hey. She said, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. Dub, I even got it tatted on me. 81, they'll bring the crashers to the party. And you know me, turn the 02 into the 03, dawg. Without 40 Ollie, there be no me. Imagine if I never met the broskies. God's plan, God's plan. I can't do this on my own, hey, nope, hey. Someone watching this shit close, yup, yeah, close. I've been me since Scarlet Road, ayy, road, ayy. Might go down as G-O-D, yeah, wait. I go hard on Southside G, ayy, wait. I make sure that Northside E.
Oh,
and still bad things, it's a lot of bad things that they wishing and wishing and wishing and wishing and wishing.
I brought toys for every single kid, so all the kids get toys.
Bad things.
I want you guys to go on a shopping spree on me. You guys can get whatever you want.
Yeah.
What's up?
and possibly 2020, I might decide for running for presidency of the United States. This is what a president is supposed to look like, okay? That's right.
I was trying to get jobs. I was trying to reach out to different workforce programs, and I can't thank you enough.
We're making a $25,000 donation to the school for incentives for the after-school program, which we're really excited about.
We're also donating $50,000
to... Trust me, we're nothing without our mothers, so thank you. You gotta make sure you take care of your mom, too, no matter what you do.
Bienvenue sur la radio Bob FM. Aujourd'hui, nous allons parler de football en abordant plusieurs thèmes : le racisme, les altercations, les sponsorisations et l'argent. Tout d'abord, je vais passer la parole à mon collègue Emeraude qui va vous présenter le racisme.
Bonjour, moi c'est Emeraude et je vais vous évoquer le racisme dans le foot. Le racisme augmente de manière inquiétante dans le football. De nos jours, le racisme reste fréquent. Nous constatons que les joueurs évoluant dans des clubs européens et partout ailleurs sont victimes des jets de bananes, projectiles, cris de singes et sifflements, et encore. Petit exemple avec le défenseur brésilien Dani Alves, qui s'est vu recevoir une banane en plein match lors d'un corner provenant d'un supporter du Villarreal. Le joueur barcelonais prend la banane, puis la mange, se moquant ainsi du public. Cela fait plus de 10 ans que je suis en Espagne, et c'est toujours pareil. Ce n'est pas maintenant qu'on va changer cela. Il faut prendre les choses en riant et se moquer d'eux, a réagi le Brésilien après le match. Autre fait raciste arrivé dernièrement, encore une fois les supporters sont à l'origine de cet acte. Le 17 février 2017, lors de la Ligue des Champions, Paris-Chelsea s'affrontait en 8e de finale. Dans la rame du métro, les supporters britanniques avaient été filmés, empêchant un passager noir de monter tout en chantant fièrement « Nous sommes racistes et on aime ça ». Merci de m'avoir écouté, je laisse la parole à mon camarade Choukri.
Bonjour. Moi, je vais vous évoquer les salaires des joueurs professionnels dans le foot. Le joueur actuellement le mieux payé est Lionel Messi. Il touche en moyenne plus de 36 millions d'euros par an, sachant que son salaire peut aller jusqu'à 65 millions avec les primes et les sponsoring. Le plus bas contrat pro en France en Ligue nationale est de 1680 euros. 95% des joueurs de Ligue 2 gagnent moins de 28 000 euros par mois. Les salaires semblent disproportionnés par rapport au salaire moyen en France qui est de 2 250 euros par mois, sachant que le seuil de pauvreté est de 950 euros environ. On peut en conclure que dans le foot, les salaires sont parfois excessifs. Ils ne sont pas représentatifs des rémunérations globales. Il y a les stars et les footballeurs lambda. Merci de m'avoir écouté, je vous passe mon collègue Kylian.
Bonjour, moi c'est Kylian et je vous parler des sponsors. Beaucoup d'entreprises misent sur le sponsoring, le football illustre parfaitement ce cas, nous allons essayer de comprendre pourquoi. C'est tout d'abord un outil de marketing utilisé pour soutenir un événement sportif ou un sportif, professionnel ou amateur. Le sponsoring est un soutien financier matériel. Il permet d'associer l'image de marque de l'entreprise à celle du sport. Elle se retrouve liée à la valeur sportive, aux performances, au dépassement de soi et à l'esprit d'équipe. Pour finir, l'objectif principal d'une entreprise, c'est d'augmenter sa notoriété. Et pour le club ou le sportif, c'est d'augmenter son budget financier. Merci de m'avoir écouté, je vais vous présenter mon camarade Claude.
Salut, alors moi je vais vous présenter les altercations. Les altercations sont un fait dans le football et arrivent de plus en plus souvent. On peut souligner des événements de plus en plus importants, comme des envahissements de terrain, des insultes verbales ou pouvant aller jusqu'aux menaces de mort et des bagarres. On peut prendre l'exemple de Lille-Montpellier lors de la 29e journée de Ligue 1. Des envahissements de terrain avaient été effectués et des supporters étaient partis attaquer des joueurs de leur propre club. On peut aussi retenir OM Lyon lors de la 30e journée de Ligue 1. Une bagarre entre joueurs avait éclaté et fait le tour du monde montrant ce qu'est devenu le football. Les altercations sont de plus en plus présentes dans le football et malheureusement il n'y a aucun moyen d'empêcher ces incidents. Merci de nous avoir écoutés. Maintenant, on va vous présenter le prochain groupe qui va vous parler du futur.
Moi, j'aurais une question. Avez-vous déjà été confronté au racisme à l'opéra ?
Alors, petite question qui est intéressante. L'opéra, par essence, c'est un art qui est international, qui n'a pas de frontières, y compris à l'Opéra de Limoges. On reçoit des artistes du monde entier. Et j'avoue que du coup, on n'est pas confronté à des phénomènes de racisme. On est tous dans le même bateau, j'allais dire. C'est-à-dire qu'on est à la fois administratif, technicien, artiste, ensemble pour fabriquer un opéra. Et du coup, il y a une espèce de communion générale autour de ça. Et c'est important. C'est-à-dire que on a des origines très différentes les uns les autres, mais on est tous autour de cet art-là, et c'est important. C'est vraiment quelque chose de représentatif à l'opéra. Donc il y a peu de racisme à l'opéra, mais on n'est jamais à l'abri, et faut toujours faire attention. Donc voilà.
Des sponsors.
Alors, oui, à l'opéra, il y a aussi des sponsors. Alors, des sponsors ou du mécénat, c'est deux choses un peu différentes. Je vais essayer de vous expliquer. Il faut savoir qu'en France, d'abord, la première chose, c'est que les opéras sont financés majoritairement par des fonds publics, soit l'État, les collectivités locales, c'est-à-dire les mairies, la région, etc. Mais quand même, on peut avoir, en complément de ce financement public, des financements privés, donc effectivement des entreprises qui nous apportent de l'argent, soit en contrepartie d'une communication, d'une visibilité, là on sera plutôt dans le cadre du sponsorise, soit sans véritable contrepartie, mais pour soutenir en fait l'action de l'opéra, que ce soit des spectacles, que ce soit aussi toute la politique qu'on mène auprès des jeunes, etc. Donc on a des fondations, des entreprises qui nous soutiennent. Donc il y a Orange par exemple qui nous soutient, il y a la fondation Bettencourt, il y a plein de structures comme ça qui apportent de l'argent et qui nous permettent de mener les actions au quotidien. C'est important. Et c'est un système un peu particulier en France, parce que dans d'autres pays, on a plus de financement privé, notamment en Angleterre ou dans les pays anglo-saxons comme aux États-Unis. En France, c'est plus de financement public, mais le financement privé arrive et devient aussi intéressant pour développer des actions qu'on ne pouvait pas mener sans les fonds privés. Donc ça peut être intéressant.
Nous allons vous parler des marques. Pourquoi les marques ont-ils une si grosse influence sur nous? Pour en savoir plus, je vais interviewer une élève du lycée Marcel Pagnol. Bonjour.
Bonjour.
Portes-tu des vêtements de marque? Si oui, pourquoi?
Oui, parce que j'en ai envie. Je me sens bien habillée quand j'en porte.
Pourquoi quand tu mets des marques, tu te sens bien habillée?
Parce que je me sens à l'aise. J'aime bien porter ce qui est tendance.
Depuis quand en mets-tu?
J'en mets depuis le CM2 à peu près, quand je me suis à peu près plus intéressée aux marques et à mon apparence.
Te sens-tu plus valorisée quand tu portes des marques? Si oui, pourquoi?
Non, je ne me sens pas valorisée parce que tout le monde en met, il n'y a pas que moi, on est presque tous habillés pareil.
Comment connais-tu les marques? Par la télé-réalité, le sport, etc.
Grâce à la publicité que je vois dans les journaux, à la télé, sur des panneaux d'affichage ou des vêtements sur des copines.
Quelles marques portes-tu le plus?
Adidas et Nike, car ce sont les marques les plus vendues.
Ne penses-tu pas que tu devrais changer, ne pas penser qu'aux marques et t'habiller d'une autre manière?
Oui, je pense que je devrais changer, mais je ne peux pas. Je me sens obligée d'avoir des vêtements ou des accessoires de marque sur moi.
Sais-tu comment les vêtements de marque sont-ils faits? Penses-tu à ces enfants de 5-6 ans qui travaillent mais qui n'ont rien en retour?
Oui, je pense à eux, mais moi je ne fais qu'acheter. C'est pas moi qui vends ces articles et qui profite de ces pauvres enfants.
D'accord, merci d'avoir répondu à mes questions. Finalement, on se rend compte qu'il est difficile de se passer des marques, c'est devenu une habitude d'en acheter, c'est une façon d'appartenir à un groupe, d'être reconnu. Faudrait-il pas qu'on se remette en question?
Il faudrait penser aux enfants exploités qui fabriquent les vêtements dans les pays en développement et qui ne perçoivent pas d'argent, aux marges financières que se font les marques en revendant les produits très chers.
Une question. Réalisez-vous des costumes créés par des grands noms de la couture?
Alors, une bonne question encore. Oui, on travaille l'opéra. Alors, l'opéra de Limoges, je vais faire deux distinctions entre l'opéra de Limoges et l'opéra en particulier, en général plutôt. À Limoges, oui, on travaille avec des costumiers, des chefs costumiers, que vous ne connaissez pas vous forcément, mais qui sont des grands professionnels dans leur domaine, etc. Et l'opéra, par exemple l'opéra de Paris ou à Londres ou à Venise ou à Milan, il se peut arriver à travailler avec des grands couturiers, là que vous allez connaître, Christian Lacroix, Jean-Paul Gaultier, etc. Donc oui, bien sûr, il y a des couturiers qui travaillent pour l'opéra, qui font des costumes de scène, mais ceux qui travaillent aussi à l'opéra sont des grands costumiers, sont des grands couturiers, mais qui sont spécialisés dans le théâtre ou dans l'opéra, et donc font pas de vêtements pour le public, donc vous les connaissez pas, mais nous, professionnels, on les connaît, on sait que ce sont des grands professionnels, et du coup, c'est des costumes qui sont qui sont magnifiques, quoi. Voilà, c'est vraiment des pièces uniques, et d'ailleurs, certaines maisons d'opéra organisent des expositions de ces costumes, des défilés, voire même des ventes aux enchères de ces costumes, voilà, donc c'est vraiment quelque chose de très important à l'opéra, les costumes. Et on porte une attention toute particulière à leur fabrication et à leur conservation.
Je vous demande maintenant d'accueillir Héloïse et Dana pour le futur.
Bonjour à tous. Nous allons évoquer les thèmes abordés par nos camarades dans le futur.
Pour la musique, la Nuit va permettre une nouvelle façon de vivre le son et une nouvelle façon d'écouter de la musique. Le son sera intégré à l'intérieur de nos objets du quotidien, des coussins, des tables. L'entreprise Limougeaud est désormais la référence dans ce domaine. Le futur de la musique passe aussi par les instruments augmentés comme le violon à gants connectés, la clarinette munie de capteurs.
Pour l'argent, notre monnaie disparaîtra sûrement. L'argent dans le futur sera invisible, on ne paiera plus par carte bancaire mais avec notre smartphone. Peut-être que l'argent du futur sera le bitcoin. C'est une unité de monnaie utilisée sur internet, indépendante des réseaux bancaires. C'est une crypto-monnaie.
Concernant le téléphone portable, la réalité augmentée nous permettrait de lire nos emails, SMS, la météo et même les notifications Snapchat à travers un graphique qui s'ouvrirait face à nous. Les nouveaux smartphones du futur seront une matière flexible qui s'adaptera autour de notre poignet. Notre smartphone sera également ultra léger et incassable. Le smartphone de demain n'aura plus besoin de batterie.
Pour le sport, les objets connectés s'invitent déjà dans le monde du sport. Montres, vêtements, baskets deviennent connectés. Les résultats sportifs sont analysés par les entraîneurs afin d'améliorer les performances des sportifs. Les sportifs seront directement connectés à une machine grâce à une puce intégrée dans leur corps qui donnera les informations.
En ce qui concerne les marques, les expériences de réalité virtuelle sont en train de devenir l'outil préféré de marketing des entreprises. Les marques expérimenteront de nouvelles formes de typographie et de visuels dans l'idée d'offrir la réalité virtuelle par un casque. Les publicités passeront par le casque virtuel.
Pour la télé-réalité, la télé-réalité du futur a été testée en Serbie et se distingue par son degré de violence extrême et un record absolu en matière de stupidité. Pour augmenter les téléspectateurs, cette télé-réalité sera encore plus trash avec plus de scandales, de conflits. Aujourd'hui, un projet de télé-réalité sur Mars est prévu. Les candidats sont déjà présélectionnés et sont répartis en 6 groupes de 4 personnes. Ils devront trouver de l'eau, produire leur oxygène et cultiver leur nourriture.
Nous vous proposons de nous retrouver dans quelques années pour voir si le futur évoqué dans notre chronique sera notre présent.
Une question. Comment voyez-vous le futur de l'opéra ?
Le futur de l'opéra, il est déjà en cours de constitution aujourd'hui. C'est-à-dire que, bon, d'abord, il faut bien comprendre que l'opéra, c'est un art qui est très vivant aujourd'hui. Contrairement à ce que peut-être vous pouvez penser, et ce que pensent certains en tout cas, c'est que l'opéra, il se construit aujourd'hui. On a des créations à l'Opéra de Limoges, dans l'ensemble des opéras français, européens et mondiaux. Dans ces créations-là, on a de la musique d'aujourd'hui qui se fait, et aussi on utilise les technologies d'aujourd'hui. Donc on parlait du numérique, évidemment, la vidéo, du numérique, tous ces outils-là, ils sont déjà présents à l'opéra, et vraisemblablement, ils sont amenés à se développer, évidemment. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que, par essence, l'opéra, c'est un spectacle qui est vivant. Donc c'est un spectacle en direct, d'accord ? Donc ça, c'est sa grande spécificité aussi. Ce qu'on constate quand même, c'est que il y a un développement des captations audiovisuelles, des diffusions sur tous les supports, que ce soit à la télé, mais aussi maintenant sur Internet. Vous pouvez regarder un opéra sur votre smartphone, etc. Donc, on peut aussi penser qu'il y aura une espèce d'hybridation en fait entre le spectacle vivant et la production audiovisuelle, que les choses vont pas être aussi découpées qu'on le connaît, c'est-à-dire que vous avez le spectacle d'un côté, la production numérique de l'autre, etc. Mais peut-être qu'on aura des objets un petit peu différents. Qui vont se développer et du coup qui permettront aussi à tout le monde d'avoir accès à cet opéra, à ces formes d'opéra. Et le futur de l'opéra, il est là surtout, je pense qu'il est dans l'ouverture vers le public, vers la grande démocratisation. Moi, je crois beaucoup que l'opéra, c'est quelque chose de très accessible, parce qu'on peut aller à l'opéra pour différentes raisons. Il y en a qui rentrent par la musique, il y en a qui rentrent par les décors, les costumes, on évoquait ça tout à l'heure. Il y en a qui peuvent aussi bien aimer le chant, la voix, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment une expression qui peut vraiment, vraiment toucher le public dans son ensemble. Et voilà, il est là, le futur, il est dans le développement aussi, dans les partenariats que l'opéra peut construire avec toutes les structures culturelles, toutes les formes d'art. Je suis pas voyant, je sais pas trop comment ça va évoluer, mais en tout cas, je suis assez optimiste pour la place de l'opéra dans le monde de demain, dans le futur. Ce sera un lieu aussi, n'oublions pas que l'opéra, c'est un lieu dans une ville, dans un territoire, et que c'est aussi un employeur, c'est aussi quelqu'un qui agit de manière directe sur l'économie, dans son territoire, etc. Et donc c'est tout ça l'opéra, et je pense que c'est dans cette complexité-là et dans cette diversité-là que l'opéra se développera dans le futur. Voilà.
Quel est le budget d'un spectacle ?
Alors, c'est très différent en fonction des spectacles. Donc, si je prends un opéra, donc un spectacle lyrique, je peux avoir des formes différentes. C'est-à-dire que je peux avoir un spectacle où j'ai 60 musiciens dans la fosse, 40 choristes sur le plateau, 10 chanteurs, des décors, des costumes. Donc là, ça va être vraiment une forme très importante. Donc, il n'y a pas de règles, mais si vous voulez, je vais vous donner une échelle, voilà, de grandeur. Quand nous, on joue un spectacle sous cette forme-là, ça peut aller entre 100 et 200 000 euros la représentation. D'accord ? À Limoges. Si je prends le même spectacle à l'Opéra de Paris, on est plus autour d'un million d'euros la représentation. D'accord ? Donc, évidemment, il y a beaucoup de monde, hein, je le dis encore une fois, hein, c'est en fonction. Par contre, vous avez aussi des petites formes dans lesquelles vous avez un chanteur, cinq musiciens, etc. Et là, on est plus autour de quelques milliers d'euros. Voilà. Donc, ça dépend beaucoup, en fait, de la forme de l'opéra. Mais de toute façon, effectivement, l'opéra est un art qui coûte très cher. Parce que c'est un art qui emploie beaucoup de monde. Parce qu'il y a le monde, il y a les gens que vous voyez, les artistes qui sont sur le plateau, mais il y a aussi tous les techniciens, tous les personnels administratifs qui travaillent, de production, voilà. Donc, au final, oui, c'est relativement cher.
Comment vous financez ces...
Alors, je le disais tout à l'heure, on le finance par des soutiens publics, par des fonds publics, ce qu'on appelle des subventions, par du recherche de mécénat, donc de partenariats privés, et aussi par les recettes d'exploitation que l'on tire, évidemment, on vend les places, donc on a des recettes. On vend aussi les spectacles, c'est-à-dire que les spectacles qui sont produits à l'Opéra de Limoges peuvent être vendus à l'extérieur, donc ça nous fait des recettes complémentaires. Donc c'est l'ensemble de ces financements qui nous permet de produire des spectacles d'opéra.
D'accord. Comment est fixé le prix d'une place de spectacle ?
Eh bien, encore une fois, c'est en fonction du coût du spectacle. C'est-à-dire que, vous l'avez vu, il y a des spectacles qui sont très chers et des spectacles qui sont moins chers. Donc évidemment, un spectacle très cher, le prix du billet va être plus cher. Et un spectacle moins cher, le prix du billet va être moins cher. Mais néanmoins, il faut bien avoir en tête que même si on a un coût de spectacle assez important parfois à l'opéra, ça peut arriver. Bon, à Limoges, c'est assez peu cher. On est un des opéras les moins chers de France, mais certaines maisons, je ne vais pas citer d'exemple particulier, mais dans les grandes villes En France, c'est entre 100 et 200 euros la place d'opéra, ce qui, quand même, ce qui peut être relativement cher. Il faut se rendre compte que ce coût, il est loin de couvrir le coût de la production. C'est-à-dire que quand j'ai mes recettes additionnées, elles ne vont pas couvrir les dépenses que j'ai engagées pour construire le spectacle. Donc c'est là où interviennent évidemment les financements publics et la recherche de partenariats privés. Donc on essaye de... C'est un équilibre en fait entre un coût qui soit qui permette un accès au plus grand nombre, mais quand même des recettes suffisantes pour quand même arriver à fonctionner. Voilà. Donc c'est tout un équilibre à trouver et c'est pas forcément évident. Voilà.
Que faites-vous des bénéfices réalisés ?
Alors, donc du coup, je l'ai dit, il n'y a pas de bénéfice, puisque du coup, on a moins de recettes que de dépenses. Voilà. Alors, on a un budget équilibré, donc les subventions équilibrent le budget, voilà. On a moins de recettes propres, de recettes d'exploitation, que de dépenses. Voilà. Donc, l'intégralité des recettes sert à financer la production des spectacles. Voilà.
Quels sont vos projets en ce moment ?
Alors, en ce moment, nous sommes en répétition des Pêcheurs de Perles, qui est un opéra de Georges Bizet. Qui sera présenté à l'Opéra de Limoges le 22 mars, à partir du 22 mars, du 22 avril d'ailleurs, je vais dire un mois de retard. Voilà. Et puis après, on enchaîne avec un projet qui est un opéra en petite forme. Là, vraiment, les Pêcheurs de Perles, c'est vraiment un opéra classique, avec une formation en fausse, les chanteurs, le chœur, très important dans cette production. Et donc après, on va enchaîner début mai avec une petite forme d'opéra contemporain, donc une création, qui s'appelle Le Baron de M, et qu'on présentera à l'occasion notamment des journées portes ouvertes, tous à l'opéra, le 5 mai. Voilà. Et on prépare déjà la saison prochaine, puisqu'on est en train de finir la programmation. Et cette présentation de saison aura lieu aussi ce jour-là, le 5 mai prochain.
Bien, merci.
Merci.
Je vous remercie, vous, éditeurs, de nous avoir écoutés. J'espère que cela vous aura plu. Je tiens également à remercier M. Fay pour sa présence, les professeurs pour leur aide, la radio BOM FM et Jean-Cédric, ainsi que toute la classe des 2G1. Au revoir.
Bob FM.
Bob quoi ?
Bob FM. L'onde de choc, l'évasion musicale du 89.